artistes, chanteurs, comédiens.
Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale.
Avec Stéphane Cousinet.
Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission culturelle, l'émission estivale. Nous sommes déjà rendus au 20 août, ça passe tellement vite que voilà, nous sommes toujours avec vous, permettre de vous faire découvrir des artistes. Alors la semaine dernière, nous étions du côté de Celles-sur-Belle avec le jeune rappeur Yameno qui nous a présenté un petit peu son parcours musical. Et ce soir, on va changer carrément de registre, on va pas parler de musique, si, sauf pour les musiques qu'on va entendre. Mais ce soir, nous recevons pour la deuxième fois dans l'émission, elle est venue le 22 janvier de cette année. Je ne sais pas si vous étiez à l'écoute de cette émission. Nous recevons pour la deuxième fois dans les studios, c'est Nicole Jeanneton-Marino. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être à nouveau présent dans les studios d'Hélène FM.
C'est moi qui vous remercie, je suis enchantée d'être là.
Alors, ce soir, vous allez nous parler de ce dernier livre qui est sorti, qui s'appelle « Idylle à l'ombre des sassafras ». On vous le dira un petit peu le contenu de ce livre. Mais avant de présenter ce livre, rappelez-nous un petit peu qui vous êtes, de quel endroit que vous venez et vous êtes qui exactement ?
Alors, je suis une retraitée à La Rochelle et avant de prendre ma retraite, j'ai été professeure de français aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne et j'ai été aussi journaliste parallèlement à tout ça pour un magazine culturel allemand en langue française.
Voilà, c'est vrai que comme on l'a dit la dernière fois que vous êtes venu dans les studios, être journaliste c'est aussi du travail.
C'est du travail, mais j'étais passionnée par ce travail. J'étais passionnée par le fait de rencontrer des gens, de parler avec eux. Et j'ai dit que vraiment chaque personne avait quelque chose d'intéressant à dire.
Alors, ce soir, donc, on va parler de ce livre, le livre « Idylle à l'ombre des sassafras ». Alors, mais avant de parler de ce livre, que s'est-il passé depuis la dernière fois que vous êtes venu dans nos studios ? Il s'est passé beaucoup de choses.
C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris un manuscrit que j'avais commencé il y a longtemps et j'ai pensé que j'avais envie de faire quelque chose un petit peu plus léger. Bon, le livre n'est pas complètement léger, il y a un petit peu de tout, mais des choses plus légères que mon dernier livre qui était une recherche historique pendant 4 ans. Donc je voulais, alors j'ai repris ça tranquillement et puis j'ai corrigé et puis j'ai relu et puis bon, c'était assez intéressant.
Ouais.
Et puis j'ai participé au Salon du Livre Féminin à La Rochelle.
Alors c'est vrai que le Salon du Livre de La Rochelle, c'est quand même vous qui avez créé ce
tout
salon.
Tout à fait. Je l'ai créé en 2011.
Ouais.
Et puis en 2018, j'ai pensé que je commençais à trop vieillir et qu'il fallait qu'il y ait des femmes plus jeunes qui reprennent ce salon. Et donc Juliette Adjaj a repris le salon avec Bénédicte Guillotot et Lydia Chauvin, toutes les trois. Elles ont porté ça à bout de bras, aidées aussi par les Ailes à La Rochelle, par le collectif Action Solidaire. Et moi, à ce moment-là, je suis juste venue en tant qu'autrice.
D'accord. Alors, cette année, ça s'est déroulé le 3 et le 4 juillet pour cette 11e édition. Un peu spéciale, je crois, cette édition.
Oui, évidemment, parce qu'il y avait moins d'autrices. Il y avait un mètre entre chaque autrice. Et on n'a pas eu énormément de public parce que les gens ont un petit peu perdu l'habitude d'aller dans des salons, je crois. Il y a beaucoup de salons qui ont été annulés. Je dois dire que moi, j'étais contente. J'ai vendu 16 livres.
Ah bah c'est bien.
Oui, justement. J'étais très, très contente. Mais c'était principalement des gens que je connaissais déjà et puis qui venaient acheter mes livres.
C'était des livres de toute génération ?
Ah non, vous voulez dire les autres, les autrices ?
Oui.
Ah oui, oui, oui. Il y avait beaucoup de personnes que moi je ne connaissais pas du tout.
D'accord.
C'était des nouvelles autrices et qui venaient de toute la France.
Hein. Oui, carrément.
Et ce qui était formidable, c'était Isabelle Rome, l'invitée d'honneur, qui est une juge et dont j'ai acheté un livre d'ailleurs, une femme exceptionnelle au niveau du droit et puis très accessible, très belle et
d'accord,
très accessible.
D'accord. Et donc, vous avez vendu 16 livres.
Oui.
Les livres que vous avez vendus, c'était lesquels ?
Ben justement, j'ai vendu sur les 16 livres, j'ai vendu déjà 6 livres, Les Lettres de l'Espoir.
Oui.
Ce qui est beaucoup, parce que c'est un gros livre de 521 pages, donc il faut être courageux. Et puis, j'ai vendu une dizaine de livres aussi, mais aussi, justement, Du vent dans les branches de sassafras. Il y a quelqu'un qui en a pris 6, parce qu'il le trouvait très joli, et il voulait l'offrir à des amis.
D'accord.
Donc j'étais ravie.
Ah bah, c'est clair.
Oui, c'est bien. Oui, c'est bien.
C'est bien, vous faites un salon du livre et puis on vous prend le dernier livre voilà, qui est sorti. Voilà. Il est sorti il y a combien de temps ce livre ?
Il est sorti.
Il y a quelques mois de ça.
Oui, il n'y a pas très longtemps. Mmh. Il est sorti il y a 6 mois.
Il y a 6 mois, ouais. Oui. Donc, oui. C'est bien. Oui. Après l'émission.
voilà. Ben oui, après l'émission, à ce moment-là, j'étais pas prête. Hein,
ouais, d'accord. Mm. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ce livre tout à l'heure. Donc, ce livre qui est déjà intéressant. Déjà, on peut vous le dire, il y a plein de choses à dire là-dedans. Même ce soir, on aura la chance, enfin, vous aurez la chance d'écouter des extraits de ce livre, n'est-ce pas ?
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Alors, avant de parler de ce livre, c'est vrai que être autrice, c'est intéressant. C'est beaucoup de choses. Hein.
C'est passionnant. C'est passionnant d'écrire. C'est passionnant. On a l'impression d'ouvrir des portes. Et puis, et surtout, c'est passionnant aussi d'être lu et d'avoir des retours. J'ai eu des retours formidables. Quelqu'un m'a envoyé une page à quatre de compliments sur ce livre par mail. Et vraiment, il a vu beaucoup de choses dans le livre que je ne savais pas qu'il allait y trouver. C'est étonnant.
Vous parlez du dernier livre.
Du dernier, ouais. Du vent dans les branches de Sassafras. Ouais. Oui.
D'accord.
Oui. Mais pour les autres aussi, j'ai eu beaucoup, beaucoup. Alors, pour les lettres de l'espoir, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dame que je ne connais pas encore physiquement, qui habite tout à côté de l'endroit où mon père a été prisonnier, en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne. Elle a acheté 4 livres. Elle ne lit pas le français. Et elle les a offerts, le troisième à des Français, elle les a envoyés en France, et le troisième livre, elle l'a donné à une traductrice, et elles ont maintenant l'intention, qui a été emballée par le livre, elles ont maintenant l'intention de chercher déjà un éditeur allemand pour traduire le livre en allemand.
Ah oui, carrément.
Parce que ce livre, évidemment, va intéresser aussi les Allemands. Parce que je parle de la France et je parle aussi de l'Allemagne.
Bien
forcément,
sûr.
Forcément.
Vous pensez avoir autant de succès par rapport à ce livre ?
Non, je ne pensais pas. Parce qu'un gros livre comme ça, il y a peu de gens qui sont assez courageux pour le prendre en main.
C'est vraiment un gros livre de 500 pages. Hein.
Oui, mais il y a des gens qui aiment les gros livres. Ouais. J'ai fait le salon du livre d'Agondange. Et là, il y a un monsieur qui est venu. Il a dit, moi, je n'achète que des gros livres.
D'accord.
Quelqu'un qui veut avoir... Et je suis en train de lire, moi, maintenant, un livre... qui est un gros livre aussi, puisqu'il fait 700 pages, et c'est Edgar Morin, le titre exact, ça doit être « Les souvenirs se rapprochent de moi ». Et donc, il raconte sa vie, et c'est absolument passionnant.
Et un gros livre comme ça, ça se lit en combien de temps ? Pour un bon lecteur, hein.
Ça dépend complètement de combien d'heures la personne va passer sur un livre comme ça, hein, par jour.
Ouais.
Donc c'est vraiment impossible à dire. Des fois, les gens les posent, les livres, et puis ils continuent pas tout de suite, ils continuent après.
D'accord.
Ça, c'est complètement individuel.
Hein. Ouais, c'est ça. Mmh. Et dans celui qu'on parle, donc avant le nouveau qui est sorti, il y avait des photos, je crois, dessus, il me semble. Quelques photos. Sur l'autre, l'ancien gros livre.
Sur les lettres de l'espoir. Ouais. Ah oui, il y a beaucoup de photos.
Ouais.
Il y a beaucoup de photos. Et je ne sais pas si vous avez vu sur mon site, mais j'ai eu un très, très, très bel article sur Sud-Ouest.
Mm-hmm.
Le titre, c'était « Je ne savais pas que mes parents s'aimaient autant
».
Et j'ai eu des retours. Alors là, il y a des gens qui m'ont écrit sur mon site et qui ont commandé le livre... parce que à la suite de cet article, donc c'est vraiment intéressant.
Ouais, c'est
les médias sont très très intéressants.
C'est clair,
évidemment.
C'est clair.
Oui.
Alors, on va vous faire découvrir un extrait de ce livre, Idylle à l'ombre des sassafras. Mais avant, peut-être un petit mot sur la musique qu'on peut écouter ensuite. C'est Dire Straits. Expliquez-nous ce choix.
Alors ça j'ai choisi cette musique-là parce que c'était une musique que moi j'ai écoutée beaucoup dans les années 70 et que j'adorais et que j'adore toujours. Et d'ailleurs, pour Noël dernier, j'ai demandé à mon fils, et j'ai dit des fils qui ont plus de 50 ans, hein, de m'offrir pour Noël le disque de Dire Straits parce que j'aime beaucoup, beaucoup, ça me rappelle des bons souvenirs.
Hélène FM. L'esprit local.
Alors, le premier chapitre s'appelle « Le psychothérapeute ». Dans la salle d'attente, aux murs ornés de douces estampes japonaises, la lumière tamisée par des stores écrus à demi baissés faisait briller l'élégant parquet ciré. Sous la table basse, où s'étalaient des magazines, un tapis persan donnait un aspect cosy à la pièce. C'était la fin de l'été. Elle était seule et se demandait par moments ce qu'elle faisait ici. Au lieu de se promener dans les jardins anglais tout proches, dont les massifs se couvraient d'asters violets, de chrysanthèmes roses et de dahlias dorés. Mais non, sa place était ici. Prise par la lassitude, ses longues jambes allongées devant elle, indolente, elle attendait, perdue dans ses pensées, incapable de lire quoi que ce soit. Physiquement, elle allait bien dans ce cadre raffiné. Même déstabilisée par le désamour de son époux, elle s'aimait trop pour se négliger et considérait comme un devoir envers elle-même de rester coquette. Tandis qu'il ne la regardait plus, elle s'appliquait à maintenir sa ligne de jeune fille, ou presque, et s'habillait toujours avec raffinement.
LNFM
89FM
à Maran.
À Maran.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing, yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'Hélène FM, l'émission Sunverge jusqu'à 21h. Je vous rappelle que ce soir, nous sommes avec l'autrice Nicole Jeanneton-Marino de La Rochelle, qui est avec nous ce soir, qui nous présentera dans quelques instants ce très beau livre, Idylle à l'ombre des sassafras. C'est vrai qu'à l'instant, d'ailleurs, c'est vrai que c'était en 1978. Hein. Ça date, hein,
ça. Voilà, ça date, mais c'est toujours beau.
C'est toujours beau à entendre. C'est sympa.
Oui, c'est très bien.
Alors, on va bien sûr revenir avec vous avant de présenter ce livre. Il faut quand même savoir que c'est pas votre premier livre qui est sorti, vous êtes rendu, je crois, au 8e ou 9e livre, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Oui, j'ai commencé par un livre très réaliste sur la vie en maison de retraite. Ce livre s'appelle toujours « Ma mère, mon enfant ». Et c'est un livre qui a été refusé par les éditeurs parisiens au prétexte que les vieux n'intéressaient personne et que ça ne serait pas commercial. Et j'en ai vendu, moi, toute seule, sans éditeur, plus de 600.
Plus de 600, voilà, c'est ça.
C'est mon best-seller.
C'était votre premier livre en 2010. Hein.
C'était mon premier livre, ouais. Oui.
C'est vrai qu'ensuite, vous avez eu d'autres sorties de livres en 2012, en 2014, en 2018.
Voilà.
Le dernier livre qu'on a parlé tout à l'heure, c'était les Lettres de l'espoir en 2019.
Oui.
Et maintenant, 2021, c'est ce livre. Alors, ce livre, on va bien sûr rentrer dans le contexte de ce livre. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire ce livre ? Expliquez-nous.
J'ai pensé que j'avais personnellement des souvenirs, et puis des amis m'avaient raconté aussi leurs souvenirs, puisque j'avais enseigné en Allemagne et j'avais des collègues françaises qui m'avaient aussi raconté un petit peu ce qu'elles avaient vécu là-bas. Et je me suis dit, bon, une histoire d'amour, je ne l'ai jamais fait. D'ailleurs, je n'ai jamais fait de polar non plus. Mais bon, pourquoi pas raconter une histoire d'amour.
D'accord.
Et donc, je me suis lancée là-dedans. Comme je vous l'ai dit, je l'ai laissé reposer quand même un certain temps.
Oui, bien sûr.
Parce que je l'avais commencé avant les Lettres de l'Espoir.
Oui.
Donc, il a reposé pendant 4 ans. Et puis, je l'ai repris. Je me suis dit, c'était quand même pas trop mal ce que tu avais écrit. Donc, je l'ai repris et je l'ai retravaillé. Et puis, voilà.
Ben c'est bien.
Oui, c'est intéressant.
Donc, c'est pas un gros livre, c'est un petit livre de combien de pages à peu près ?
132 pages.
132 pages.
C'est un petit livre pour l'été.
Ouais.
C'est un petit livre qu'on peut emmener à la plage.
On est à l'été, là.
Voilà, on peut l'emmener à la plage dans un sac, il ne tient pas de place. Donc, c'est pratique, on peut l'emmener dans le train, on peut. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Donc, et pourquoi ce nom ? Alors, Idylle à l'ombre des sassafras.
Alors ça c'est toute une histoire. C'est parce que quand j'étais en Allemagne, à l'université d'Augsbourg, j'ai eu un contact avec René de Obaldia, qui est un grand auteur de la littérature française, qui a écrit des quantités de livres, de poèmes, de livres, de romans et de pièces de théâtre. Et ce monsieur a écrit une très très belle pièce de théâtre et très amusante qui s'appelle « Du vent dans les branches de sassafras ». Ce qui est un titre extraordinaire, parce que personne ne sait ce que c'est qu'un sassafras, donc il faut chercher. Bon, c'est un très bel arbre avec des très jolies feuilles. D'ailleurs, il y a des feuilles de sassafras sur la couverture.
Voilà. Montrez-nous à la caméra,
voilà.
Comme ça tout le monde le voit.
Il y a des feuilles de sassafras. Et donc, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, ça serait bien de rappeler un petit peu ça. Et, mais alors, René de Obaldia, je ne le connaissais pas du tout. Sauf à l'époque, je lui avais écrit pour lui demander l'autorisation de jouer sa pièce, en lui demandant s'il voulait bien renoncer au droit d'auteur. Parce que quand on est avec des étudiants dans une université, ben, on n'a pas d'argent. Et il avait été très, très gentil à ce moment-là. Il avait envoyé une très gentille lettre, il m'avait dit oui, oui, avec plaisir, etc. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de revoir ce qu'il est devenu, René de Obaldia. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Et donc, j'ai appris sur Internet que c'était le doyen des académiciens.
D'accord.
Et ce monsieur a 102 ans.
Ah oui.
Alors, je lui ai écrit à l'Académie française, évidemment, je n'ai pas son adresse. Et il m'a téléphoné. Et il m'a dit, c'est formidable, je suis enchantée que vous parliez de cette pièce, et bravo. Et d'ailleurs, j'ai une petite dédicace au début du livre qu'on a retranscrite ici. Encore bravo, chère Nicole, je vous embrasse, René de Obaldia.
Ça va.
C'est adorable.
Ah ouais, c'est adorable.
Il est adorable. Il m'a téléphoné, il parle comme vous, comme moi, comme un jeune homme.
D'accord.
Et on ne peut pas comprendre, on ne peut pas admettre qu'il a 102 ans. Formidable.
Il est toujours aussi...
Moi, je ne l'ai pas vu physiquement, ouais. Parce que ça s'est passé par téléphone. Alors, à la suite de ça, pour le remercier de cette petite dédicace, alors j'ai demandé au nouvel éditeur, là, s'il voulait bien la mettre au début. Je lui ai demandé à lui s'il autorisait qu'on la mette dans le livre. Il a dit oui, avec plaisir. Et pour le remercier de tout ça, je lui ai envoyé les lettres de l'espoir.
D'accord.
Il m'a téléphoné, il m'a dit, vous avez écrit une œuvre. Alors là, c'est formidable d'entendre un compliment comme ça de la part d'un grand auteur.
Bien sûr.
Parce que moi, évidemment, je n'arrive même pas au bord de son gros orteil. Donc voilà, donc, ça c'est l'histoire du Sassafras et de cette pièce de théâtre. Voilà.
D'accord. Donc c'est une originalité assez intéressante alors.
Oui, oui, oui. J'ai pas bien entendu ce que vous
m'avez dit. C'était l'originalité.
Oui, oui, ça c'est... Bon, il y a... Personne d'autre écrira quelque chose là-dessus, je crois, parce que c'est vraiment... C'est lié aussi au travail que j'ai fait avec mes étudiants pour leur permettre de jouer une pièce de théâtre et d'autres pièces de théâtre après, en français. Et ils étaient allemands.
Ce livre, ça parle de femmes.
Ça parle d'une femme, oui, principalement. Femme. Plusieurs femmes, d'ailleurs.
Femmes.
Une femme qui a le rôle principal, et puis il y a d'autres femmes, des collègues, donc, de cette femme.
C'est des histoires de femmes qu'on entend régulièrement par rapport à l'actualité, ou non ?
Non, c'est pas aussi tragique que ce qu'on a en ce moment, parce que, heureusement, dans mon livre, il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas de féminicide. Ouais. Heureusement. Mais quand même des histoires de femmes, de couples.
D'accord.
Donc ça parle à tout le monde, par contre.
Ce livre comporte combien de chapitres ?
Attendez, il faut que je regarde, je ne sais plus.
Beaucoup de chapitres ?
31 chapitres.
D'accord.
Mais ce sont des chapitres courts.
Ouais, ouais, ouais.
C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est facile à lire, parce qu'on ne perd pas le fil. Quand les chapitres sont très longs, parfois on perd le fil.
D'accord.
Et là, c'est vraiment un livre qui se lit très, très facilement. Et les amis qui l'ont lu m'ont dit, je l'ai commencé, je l'ai fini en 2 jours, ça y est.
D'accord, bah oui.
Donc c'est bien.
C'est des chapitres qui parlent toujours d'amour.
Voilà, qui parlent d'amour, qui parlent pas d'une liaison, mais d'une idylle entre une femme et puis un étudiant qui était très beau. Et donc voilà.
Et cette histoire, ça se passe où ?
Ça se passe en Bavière.
En Bavière.
Parce que moi, j'ai enseigné en Bavière.
D'accord.
Donc, je l'ai situé. Et ça me permet de parler aussi un peu de l'Allemagne. Parce que j'ai quand même vécu 20 ans en Allemagne. Et j'ai observé beaucoup de choses. J'ai observé les hommes, j'ai observé les femmes. Et là, justement, je pourrais vous lire un petit passage où je parle des Allemandes qui m'avaient invité.
Alors, vous allez le faire dans quelques instants. Mais juste avant, vous allez nous présenter le deuxième titre qu'on va écouter. C'est Anne Sylvestre, un autre style. Hein. Expliquez-nous pourquoi.
Anne Sylvestre, c'est quelqu'un que j'adore, qui est malheureusement décédé maintenant. Qui a chanté vraiment très 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 longtemps, même elle était déjà âgée. Et c'est une femme qui est une féministe. Et vous savez que j'avais créé une association de femmes à La Rochelle, et moi je me considère aussi comme une féministe. Et je voulais montrer ce qu'on pouvait dire sur les femmes. Et en particulier sur cette chanson, La faute à Ève. C'est une chanson qui me plaît bien, parce que quand j'ai mis mes enfants au monde, ça fait longtemps, mais quand même, le premier... Pour le baptême, j'ai appris dans mon missel, puisque j'étais catholique, j'allais à la messe, j'avais un missel. Dans le missel, à la fin du missel, c'est un assez gros missel, il y avait marqué que les femmes étant impures, parce qu'elles avaient accouché, ne pouvaient pas rentrer dans l'église où leur enfant allait être baptisé. Et ça m'a mise en colère par rapport, ça ne m'est pas arrivé, hein, mais je l'avais lu à l'époque où apparemment le prêtre qui a baptisé mon fils aîné, c'est un ami en plus, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ça m'a mise vraiment en colère, et vraiment je suis en colère par rapport au mépris que les religions en général ont pour les femmes. Et Anne Sylvestre parle d'Ève, et je trouve qu'elle a tout à fait raison avec cette chanson.
L'esprit local.
Donc c'est une petite partie du deuxième chapitre sur l'arrivée donc de cette Française en Bavière. Je dois dire une Française qui ne parlait pas allemand. Peu de temps après son arrivée en Bavière, un après-midi où elle n'avait pu refuser une invitation pour le thé, la Française avait dû se joindre au chœur louangeur des autres invités devant les délicates porcelaines de Meissen, bleues et blanches, qui attiraient l'œil entre les deux portes galbées grandes ouvertes du buffet Biedermeier. Puis l'hôtesse avait servi le thé et, au milieu d'une conversation anodine, avait pris un ton faussement peiné pour lui demander en souriant, les yeux dans les yeux, « Mais chère madame, dites-moi pourquoi vous travaillez ?» Les autres femmes s'étaient tues, attendant la réponse à la question qu'elles se posaient depuis l'arrivée de Mona dans cette ville de province conservatrice. « Je travaille parce que j'aime mon métier, et vous comprendrez qu'il me rapproche de mon pays, puisque j'enseigne ma langue maternelle. »« Bien sûr, mais votre mari a une belle situation. » »« Ça n'a rien à voir. Si je travaille, c'est pour moi, pour être indépendante, et aussi pour mon propre plaisir. » J'ai approfondi la langue et la littérature française. Je veux transmettre ce que j'ai appris à mes étudiants, d'autant plus qu'ils apprécient la culture française et sont avides de la connaître.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute d'Ève, il n'a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventaire qui l'a volée, c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit attends je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé. Pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Mon premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. plus pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché qu'on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah.
Artistes, chanteurs, comédiens.
Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale.
Avec Stéphane Cousinet.
Alors c'est le troisième chapitre, le titre c'est « Copine ». Le lendemain matin, vers 9h, Mona terminait son petit déjeuner quand on sonna à la grille. C'était Annick, la collègue française qui habitait dans son quartier et qu'elle emmenait certains jours en voiture à l'université. Marcus, lui, était déjà parti travailler depuis longtemps. Il n'était pas le seul à commencer de bonne heure. Dans les administrations et les entreprises, ce n'était pas rare de voir, dès 7h30, des employés déjà au travail dans leur bureau, ce qui étonnait Mona au début. Journée continue, sandwich à midi et chez soi vers 16h. Tout comme ses collègues allemands, son dentiste de mari ouvrait très tôt son cabinet, accueillait ses patients dans la foulée, de façon à avoir ses fins d'après-midi pour lui. Il avait beaucoup à faire, des adaptations de prothèses dentaires, des préparations de conférences pour un prochain congrès, des réunions avec son comptable, la musculation en salle de sport et toutes sortes d'activités qui échappaient entièrement à sa femme, d'où une très grande liberté de mouvement, sans compter ses voyages professionnels. Mona et Annick s'entendaient plutôt bien. Elles avaient un peu de temps pour bavarder avant d'aller prendre au passage l'autre collègue française, Marie-Ange, qui se trouvait aussi sur le chemin. « Un petit café pour la route ? Pas de refus. Tu sais, je ne suis vraiment pas bien. Regarde. » De larges plaques rouges marbraient ses bras et sa gorge, remontant sur le cou en épargnant le visage, heureusement. « Qu'est-ce que c'est, de l'eczéma ? Je suis allergique à Herr Wurmer. Je ne peux plus le supporter. » Quand je sais que je vais le voir, subir ses critiques et ses sarcasmes, j'ai des éruptions cutanées. En fait, il te donne des boutons. Je ne sais pas quoi faire. J'ai une pommade à la cortisone, mais ce n'est pas une solution. Tu ne vas pas pouvoir continuer comme ça. J'ai besoin de travailler et j'ai mon contrat. C'était la rengaine. Elles en avaient souvent parlé. Mais que faire ? Annick était une petite personne intelligente, très décidée et rebelle. Des cheveux blonds filasses encadraient un visage anguleux à la peau blanche. Elle s'habillait un peu comme un garçon, toujours en jeans et large pull. Son aspect ne l'intéressait guère, et rien en elle ne pouvait attirer un homme, même le moins difficile. D'ailleurs, elle claironnait que les hommes l'indifféraient. De plus, elle supportait mal de recevoir des conseils de son chef de service, érudit certes, mais qui parlait mal le français. Rédhibitoire pour elle. Dotée d'un humour acerbe, elle le singeait, et Mona s'amusait de ses imitations. Pourtant, il fallait partir, rejoindre l'université, dont le vaste campus était situé un peu à l'extérieur de la ville. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing.
Les quatre garçons dans le vent, on les appelait les Beatles, choisis par notre invité de ce soir, Nicole Jeanneton-Marino de La Rochelle. Alors, un petit mot sur les Beatles qu'on a écouté.
Oui, alors ça, c'est surtout le titre « A Little Help from My Friends », parce qu'il se trouve que dans mon histoire, la prof est aidée, enfin soutenue, par le groupe des étudiants qui vont jouer la pièce de théâtre de René de Obaldia.
D'accord. Donc voilà,
c'est sont ses amis, devenus ses amis.
D'accord. Et donc, on va retrouver un petit peu donc la suite de ce livre qui, je vous rappelle, qui s'appelle « Idylle à l'ombre des sassafras ». On va écouter un autre titre, c'est une voix féminine, c'est Juliette Gréco, avec un titre, alors c'est vrai qu'il fait chaud actuellement. Ça s'appelle « Déshabillez-moi », c'est ça?
Oui, c'est ça. Ah, c'est une chanson que j'adore et que beaucoup d'hommes devraient écouter avant d'avoir des relations avec les femmes, parce qu'elle explique bien comment il faut faire.
D'accord. Bon, on va écouter alors. C'est Juliette Gréco, c'est ça?
Juliette Gréco, oui.
Mais avant, bien sûr, vous raconterez un petit peu une histoire, enfin une histoire, une petite partie de votre livre dans quelques instants sur Hélène FM.
Hélène FM.
Heureusement, les cours étaient prenants. Mona passait des heures à les préparer dans la bibliothèque où elle se sentait chez elle au milieu des livres. Elle s'attardait aussi dans son labo, réécoutait certaines bandes magnétiques et mettait en place celles du lendemain. Un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires et vérifiait si toutes les cabines étaient éteintes, la prof vit arriver Annette, une jeune fille assez délurée. « Madame Hoffman, vous avez un moment ?»« Naturellement, entrez !» Avec des copains, on a envie de créer un groupe de théâtre. Est-ce que vous pourriez nous aider pour la prononciation? Le docteur Baird est partant si vous faites partie du projet. C'est une bonne idée, mais ça demande réflexion. On en reparle. Ce n'est pas non? Ce n'est pas non. Mona réfléchissait. Du théâtre, pourquoi pas? Mais sur une scène, face au public, avec l'accent à couper au couteau de certains étudiants, comment ne pas les exposer au ridicule? Pourtant, ce serait une motivation inespérée pour les faire progresser à l'oral, et pour elle une belle distraction. Le lendemain, sa décision était prise. Ce serait oui. Annette, vous pouvez compter sur moi. Super, on fait une réunion bientôt? Demain soir à 18h dans la salle de TP, si vous contactez les autres, et si le docteur Baird est d'accord, vous me confirmez demain matin. Mona connaissait peu le docteur Baird. Elle l'apercevait parfois à la bibliothèque. C'était un homme affable, d'une quarantaine d'années, un peu enveloppé et habillé de façon décontractée. Son visage, aux traits assez flasques, respirait la bonté et était barré par des lunettes à bord noir dont les verres épais agrandissaient ses yeux de myope. Mona sut tout de suite qu'elle s'entendrait bien avec lui. Très spirituel, quand il parlait, un sourire malicieux n'était jamais loin. Le lendemain, elle le croisa dans un couloir. Après l'habituel grüß Gott, le traditionnel bonjour bavarois, il l'aborda. « Cher collègue, alors c'est entendu ?»« Mais oui, je trouve que c'est une bonne idée. C'est très gentil à vous d'avoir accepté. Vous pourrez améliorer l'accent de nos étudiants. Je me mets à la recherche d'un texte. Vous avez une suggestion ?»« Non, pas encore. Mais on va trouver sans difficulté dans le répertoire du théâtre français. » Alors à ce soir, il avait l'air enchanté de la collaboration de Mona, qui le soupçonna d'avoir été l'instigateur du projet théâtre et de lui avoir envoyé la belle Annette la veille comme ambassadrice.
LNFM
102.9
à Sainte.
À Sainte.
Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue. Peu à peu, déshabillez-moi. déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissant et affaire de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder. Me consommer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-vous.
Voilà, c'était Juliette Gréco avec Déshabillez-moi, donc une chanson qui date depuis quelques années de ça. Hein.
Aussi, c'est pareil. Ouais. Oui. Mais c'est une très très jolie chanson. J'ai lu sur internet qu'au début, elle n'avait pas été du tout appréciée. Et finalement, c'est Juliette Gréco qui l'a lancée.
Alors, on va parler encore un petit peu de ce livre. Donc, ce livre, donc, il est en vente. Oui. On peut le retrouver partout, sur votre site internet, je crois.
Oui, voilà. L'éditeur, c'est Maya. Oui. C'est une maison d'édition parisienne à laquelle j'ai envoyé le manuscrit et qui, tout de suite, m'a répondu que le livre les intéressait.
D'accord.
Et donc, j'ai été très, très heureuse de travailler avec eux parce que... Il y a beaucoup de spécialistes, alors pour la mise en page, pour le texte, pour la quatrième de couverture, chaque fois c'est une personne différente qui est spécialisée dans cette technique, et vraiment j'ai beaucoup aimé travailler avec eux.
Montrez un petit peu le livre la caméra, voilà, pour que les personnes le suivent en vidéo, voilà, que Lydie, la nombre de Sassafra.
Oui. Alors, c'est surtout la couverture qui est belle. Alors, ça, c'est un ami qui me l'a faite, Fabrice Mignonneau, qui est professeur d'art plastique et qui est aussi dessinateur et musicien. Donc, on a travaillé ensemble parce que moi, je voulais un théâtre sur la première page et puis je voulais des feuilles de sassafras. Donc, c'était assez difficile pour lui, mais il est très, très doué et il a vraiment bien réussi.
Il a trouvé ce qu'il faut.
Tout à fait. Je suis enchantée. Tout le monde dit le joli livre, le joli livre.
Alors, donc, ce livre, il est aux éditions donc,
Maya.
Sur le site internet.
Tout à fait. Et donc, le site des éditions Maya. Et puis, sur d'autres sites, évidemment, aussi.
Il est en vente au prix de 18 euros, 19
Oui, c'est ça. Il n'est pas cher.
Il n'est pas cher.
Il est pas cher.
Donc, n'hésitez pas. Et puis aussi, pour plus d'infos, vous avez votre site internet.
Oui, voilà. J'ai un site internet qui m'a été fait par Élodie Morel, qui est celle qui a fait aussi le site du Salon du Livre Féminin. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et elle a fait vraiment... Elle est très, très douée. Elle a fait quelque chose de très joli. Et Fabrice m'a refait un dessin pour encadrer le début du site aussi. Un très joli dessin aussi.
Alors, le site, ça s'appelle nicole-genoton-marino.fr.
Voilà, c'est ça. C'est en minuscule, tout en minuscule.
Minuscule, ouais.
Voilà, voilà.
Où on peut voir, bien sûr, ce livre, ce roman qui est sorti cette année, il y a à peu près six mois. C'est
voilà.
Ça, hein.
Mais on peut voir tous les livres que j'ai écrits, oui. Avec la possibilité de lire quelques pages aussi de chaque livre. Et donc, je trouve que le site est très intéressant. Alors, je lui ai demandé de mettre aussi quelques articles que j'avais écrits quand je travaillais pour le magazine allemand. Et donc, là, j'étais un peu inquiète parce que, par rapport au droit, c'est moi qui ai écrit les articles, mais on me les a achetés. Donc, après, c'est donc le magazine qui est propriétaire. Alors, j'étais un petit peu inquiète, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas, pas eu de problème.
Alors, donc, votre site internet, le site par rapport à l'édition de votre livre,
oui,
vous avez aussi un Facebook. Hein.
Oui, oui, oui. Aussi un Facebook. C'est d'ailleurs Élodie qui me l'a fait parce que je ne suis pas très à l'aise avec Facebook.
D'accord. Donc, Élodie, c'est la personne qui crée tout.
Voilà, exactement. Je dois dire que Facebook, j'ai eu tellement de messieurs qui m'ont écrit, qui voulaient être amis avec moi, que ça m'a un petit peu ennuyée parce que c'était incroyable. Il y en avait. À la suite de, sans doute, ils ont vu une photo quelque part et puis, votre photo, on voudrait bien être amis avec vous.
D'accord.
Non, mais je suis mariée, j'en ai pas besoin non plus.
Alors, donc, les projets, est-ce que vous allez, bien sûr, continuer à écrire? D'autres livres
Ah oui, oui, mais il faut dire que j'écris déjà des choses parallèlement.
Ouais.
J'ai pensé à écrire quelque chose sur le fait d'écrire et le fait de lire.
D'accord.
Alors, mais ça, c'est le début. Il y a davantage de choses encore dans la partie lire que dans la partie écrire, mais ça, c'est en train de se faire. J'ai aussi, depuis longtemps, l'idée de parler des femmes qui m'ont précédée. Mmh. Parce que je connais l'histoire de ma mère, de ma grand-mère maternelle, de mon arrière-grand-mère maternelle et de l'arrière-arrière-grand-mère maternelle. Ça fait 4 générations de femmes, plus moi. Bon, ben moi, ce n'est pas la peine. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de voir l'évolution de ces femmes, la façon dont elles ont évolué, justement. Elles ont toujours travaillé. Hein. Je viens d'une famille où les femmes travaillaient.
D'accord.
Tout simplement parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement.
Bien sûr.
C'était pas des bourgeoises qui restaient à la maison et puis qui buvaient le thé comme les dames que j'ai vues en Bavière. Donc ça, c'est une chose qui m'intéresse. C'est aussi le côté historique qui m'intéresse beaucoup parce que je crois que ces femmes-là ont des choses à nous dire.
D'accord.
Parce que les femmes actuelles, elles ont d'autres soucis. C'est pas du tout la même ambiance. C'est pas du tout ce que les femmes... Moi, ce que j'ai appris par ma mère, ce que j'ai appris par ma grand-mère... D'abord, j'ai pas pu le transmettre à mes garçons, parce que j'ai eu 3 garçons. Et ensuite, on n'en parle plus. C'est une autre ambiance maintenant. Les jeunes filles sont pas du tout éduquées de la même façon.
C'est vrai.
J'ai une petite fille qui vient d'avoir 11 ans. Mmh. On lui a offert un iPhone.
Oui, voilà. C'est ça la génération maintenant.
Voilà. Donc c'est pas du tout la même chose. On parlait beaucoup plus avec nos mères, avec nos grand-mères, parce que tout simplement on avait rien de. Elles nous racontaient des histoires. Enfin, maintenant les femmes travaillent beaucoup beaucoup et n'ont pas tellement le temps non plus peut-être de raconter des histoires. Hein. J'ai une amie qui me racontait récemment qu'elle avait vu une petite fille de 2 ans et demi. Qui tapotait sur un petit écran, il y avait un jeu, elle était toute petite, petite, et elle savait très bien
ce
qu'il fallait faire.
C'est incroyable.
Une accélération incroyable.
C'est clair.
C'est vrai.
Avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un petit message à passer ce soir sur l'antenne de l'NFM pour les personnes qui veulent faire comme vous, écrire?
Ah oui, ben je peux leur dire que c'est très facile d'écrire. Il suffit de s'y mettre. Il suffit de prendre un... Moi, j'écris directement sur l'ordinateur, mais on peut aussi écrire sur du papier. J'aime bien l'ordinateur parce que on peut effacer tout de suite. Quelque chose ne plaît pas, on peut déplacer les paragraphes. Je trouve ça très pratique. Et puis, si on a tous des choses à raconter. Déjà sur notre vie, mais aussi sur notre environnement, sur ce qu'on voit autour de nous. Là, il y a des gens qui ont écrit sur le Covid, il y a eu toutes sortes de choses. Mais pas que ça, pas que ça. Sur des livres qu'on a lus, sur des musiques qu'on a entendues, sur des voyages. On peut écrire, c'est pas difficile.
Vous avez des remerciements à faire ce soir ?
Oui, j'ai des remerciements, évidemment, à cette maison d'édition, hein, à Maya. Et aussi à la maison d'édition sur les lettres de l'espoir, parce que sans ces deux maisons d'édition, mes livres auraient eu beaucoup plus de mal à se faire connaître. Et puis à mon mari qui m'a supportée pendant que j'écrivais, c'est-à-dire qu'il a fait la cuisine tout le temps. Donc, il...
Dans quelques instants, on va finir avec un autre groupe, c'est Simon & Garfunkel. Donc, toujours dans les souvenirs.
Voilà, que j'adore aussi. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette musique. Ce sont des musiques qui sont douces, finalement.
En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être passé ce soir dans le studio de l'NFM. Vous souhaitez une bonne continuation. On rappelle le nom de votre livre, c'est « Idylle à l'ombre des sassafras ». N'hésitez pas à vous le procurer, c'est très intéressant. En allant sur le site internet nicole-jeneton.com marino.fr ou alors aller sur le site de l'édition Maya.
Voilà.
Et puis ou sur le Facebook.
Voilà, tout à fait.
Et puis on va finir avec vous avec un extrait de votre livre. Et puis voilà, donc quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Scène Ouverte. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve vendredi prochain, même heure, même date. Vendredi, c'est de 20h à 21h sur les ondes du 89FM, 102.9 et www.nfm.com. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci, au revoir.
Artistes, chanteurs, comédiens.
Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale.
Avec Stéphane Cousinet.
Alors j'ai consacré un chapitre qui s'appelle L'étrangère, parce que quand je suis arrivée en Allemagne, personnellement, je ne parlais pas allemand. Donc j'avais fait de l'espagnol, j'avais fait de l'anglais, j'étais une élève très moyenne, et donc l'allemand c'était réservé aux très très bons élèves, mais je n'en faisais pas partie. Donc j'ai un petit peu raconté mon expérience de personnes qui arrivent dans un pays étranger et qui ne parlent pas la langue. Sur place, elle avait rapidement rencontré des professeurs inattendus, surtout des femmes d'une gentillesse et d'une patience exemplaire. Ce fut d'abord grâce à sa voisine de palier qu'elle commença des travaux pratiques, quand celle-ci lui rappela son devoir, le lavage de l'escalier de son étage tous les 15 jours. Une autre lui expliqua le fonctionnement de la machine à laver communautaire dans la buanderie du sous-sol. De fil en aiguille, elle fit la connaissance de plusieurs femmes dont les maris, chacun à leur tour, les invitèrent, Marcus et elle, à venir goûter les vins du Rhin, en commençant par le moins goûteux et en terminant par le meilleur, comme c'est la coutume. Lors de ces soirées bien arrosées, Mona, désinhibée par l'alcool, parlait allemand sans crainte et progressait magnifiquement.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you.
take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. The sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Chanteur, comédien.
Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale.
Avec Stéphane Cousinet.
LNFM, l'esprit local.
Je laisse aux autres les deux mains, moi je prends que les mains. Si c'est pour penser la fin, compte sur mes rêves d'enfant. Je laisse aux autres les deux mains, moi je prends que les mains. Si c'est pour penser la fin.
L'esprit local. LNFM
102.9
à Sainte.
On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête.
LNFM.com.
Presto tutto sarà più bello. Addormentati, bambino, e stoni d'oro. Presto tutto sarà più bello. Addormentati,
LNFM 89 FM a New York.
FM à Surgère.
C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non.
LNFM 89 FM à Rochefort. FM, l'esprit local.